Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, deuxième émission de cette nouvelle saison avec toutes nos pensées pour les Antilles, victimes de l'ouragan Irma. Les Antilles, où la librairie francophone est très écoutée, c'est un message d'affection et de solidarité que nous leur envoyons aujourd'hui. Et il sera question des catastrophes naturelles avec le poète haïtien James Noël qui publie son premier roman. Haïti connaît malheureusement le drame du chaos avec son récent tremblement de terre qui a laissé des traces et des stigmates. Bonjour James Noël.
Bonjour.
Que ressent-on lorsque tout autour de nous est dévasté? Quels sont les premiers réflexes, les premières pensées?
Ben, on ressent le tremblement au fait intérieur et en même temps on essaie de se toucher pour voir si on est là parce que en tout cas, dans mon cas, quand j'ai vécu le séisme en Haïti, pour moi, c'était pas le tremblement de terre en Haïti. Pour moi, c'était la fin du monde.
Ouais, c'est ça.
Du coup, quand j'ai écrit très vite une chronique dans Nouvel Obs, justement, qui était intitulée « Nous sommes pas à notre première fin du monde ».
Voilà, on va vivre une expérience radiophonique avec vous parce qu'on va tous lire des textes, des extraits de votre livre qui parlent justement du chaos. C'est un hasard hein, parce que vous étiez prévu, je vais le raconter, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. James Noël est dans la librairie francophone cette semaine. Nous allons parler aussi de la condition animale avec Jean-Baptiste Delamo qui a reçu le prix du Livre Inter en juin dernier pour un livre déjà sur le sujet Règne animal. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Très bien, merci.
Très bien. Vous revenez avec un essai sur le scandale de l'abattage de masse notamment. Et puis il sera question de la transmission génétique, de l'hérédité et parfois même de la malédiction avec le nouveau roman très étrange de Joyce Ormond.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires, comme chaque semaine, sont en multiplex pour représenter le Canada. C'est le retour de Jérémy Laniel. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu, vous êtes dans nos studios de Montréal. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la Belgique, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Fidèle parmi les fidèles. Grégoire Courtois est notre libraire français aujourd'hui. Libraire à Auxerre, directeur de la librairie Oblique. Bonjour Grégoire.
Bonjour Emmanuel.
Très élégant aujourd'hui.
Ah bon?
Oui, c'est vrai. Tout en noir, magnifique. Ouais. Et enfin pour la Suisse, c'est Dominique Bressou qui est avec nous depuis nos studios de la RTS. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Baudry, dans la librairie Une Boudry. Petite prose. Baudry, oui c'est ça, qu'est-ce que j'ai dit?
Beau,
c'est très beau parce que c'est très beau. À Baudry, excusez-moi. Bonjour Joyce Ormond.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la première fois dans la librairie francophone. Nous parlerons donc des malédictions de l'hérédité avec votre nouveau roman. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Vous avez cette chance, ça tombe sur vous. Que voulez-vous nous raconter, Joyce?
Je voudrais raconter une rencontre avec une lectrice. Il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Comme une bête » et qui était l'histoire d'un boucher. Et je me suis intéressée à l'occasion de ce roman aux relations qu'entretenaient les éleveurs avec leurs animaux, en particulier au moment où ils devaient les mener à l'abattage. Mmh. Et donc, dans une rencontre, dans un festival littéraire, une jeune bergère de même pas 20 ans est venue me voir et m'a raconté comment elle se séparait de ses brebis au moment de les mener à l'abattoir. Elle m'a raconté qu'elle avait écrit un poème qui expliquait le sens de ce qui liait les bêtes et les hommes, le sens de la vie, leur destinée aux bêtes, c'est-à-dire la mort et être mangé par l'humanité. Et donc à chaque brebis, avant de la faire monter dans le camion qui la menait à l'abattage, elle lisait ce poème et que pour elle, il était impossible sinon de faire cet acte de se séparer de ses bêtes sans avoir lu ce poème qui était comme une demande de pardon, une forme de justification littéraire.
Et ça résonne évidemment avec le sujet de Jean-Baptiste Delamo.
Voilà.
C'était pas prévu ça non plus.
C'était pas du tout prévu, donc c'est pour ça que je suis contente de raconter ça devant lui.
Vous êtes parfaite, merci beaucoup. Joyce Ormond est dans la librairie francophone. Le hasard toujours, le destin qui fait décidément bizarrement les choses. James Noël, on vous a révélé au public dans la librairie francophone il y a quelques années déjà pour votre travail sur la poésie. On voulait très vite vous recevoir pour ce premier roman qui marque la rentrée littéraire de votre éditeur, les éditions Zulma. Cette invitation a été donc prévue depuis plusieurs semaines, on l'a calé même cet été hein, je crois, à cette date. Et ce que l'on n'avait pas imaginé, c'est que ce livre, qui parle des stigmates des catastrophes naturelles et climatiques d'Haïti, serait en parfait écho avec ce qu'il est en train de se passer aux Antilles et aux États-Unis. Le 12 janvier 2010, lors du séisme ravageur, où étiez-vous?
Ouais, j'étais en Haïti, je venais d'être père. Donc du coup, j'étais dans la jubilation, dans la joie, justement, de cette nouvelle expérience. Et soudain, justement, j'étais dans ma voiture, vieille bagnole, je m'attendais à une panne. Et la panne est arrivée et j'ai très vite compris que c'était pas ma bagnole, c'est la terre qui était en panne. Et je suis sorti en courant de ma voiture et j'ai vécu cette chose dont les répliques se prolongent encore en moi aujourd'hui. D'où
comme pour la plupart des Haïtiens d'ailleurs, d'où ce livre d'ailleurs. C'était il y a 7 ans, mais ça reste encore très présent en vous.
Absolument.
Et dans ce livre qui fait des allers-retours entre Haïti et l'Italie frappée aussi par les tremblements de terre, vous rendez poétique des événements tragiques, les ouragans, les séismes, un peu comme si malgré tout vous respectiez cette force de la nature.
Oh, je ne dirais pas que c'est un respect, de toute façon nous sommes démunis devant une telle catastrophe, c'est des choses qui sont plus grandes que nous. Justement, je pense que l'art nous permet d'être parasismique, reprendre vie, reprendre force et respirer pour avancer.
Page 149, il est question de l'ouragan Matthew qui avait frappé Haïti juste après le tremblement de terre. Là, il est question de l'ouragan Irma, mais ça rentre en écho, évidemment. Vous voulez bien nous lire ce passage, James Noël ?
Les maisons en toit de chaume, en toit de vétiver, en toit de tôle sont emportées par les vents et les flots. L'évidence valse, flotte comme des bouchons dans les méandres de la mort. Le bétail est parti. La catastrophe est sans borne. La mer monte sur les côtes, prend de l'ascension. La mer monte aux lèvres des petits poissons roses qui regardent rouler les familles humaines comme dans un aquarium inversé. Les pêcheurs sont pris jusqu'à la gorge dans les filets de l'ouragan. Maintenant, ce sont les amis qui nous écrivent, les amis du monde entier nous envoient des pensées, nous écrivent de toutes parts. Ça fait du bien.
Les pensées amicales, ça aide vraiment. C'est la plus belle des solidarités pour vous, James Noël.
Au fait, le fait de ne pas se sentir seul, le fait de sentir qu'on est entouré, donc du coup, ça permet de sortir, sortir de son trou, parce que quand il y a le trauma, donc on est dans un trou, et le fait justement d'être accompagné, d'où la nécessité justement d'échanger, de discuter, de pas seulement pour oublier, pour évacuer.
Pour exorciser, oui, c'est ça.
Ouais, ça, c'est fondamental.
Alors, la construction de votre livre est morcelée, James. Vous écrivez par fragments. Alors, nous allons tenter une expérience jamais réalisée ici. Comme vous venez de le faire, chacun d'entre nous, en plateau ici, va lire un court extrait de votre roman sur de la musique haïtienne. Et vous allez réagir à vos propos, car de nombreux passages sont finalement des réflexions qui interpellent et qui suscitent des questions. On va continuer donc avec Jean-Baptiste Delamo, qui lit un extrait de votre livre Belle Merveille, c'est le son du monde de la semaine, donc en 4 parties. On poursuit avec la solidarité, avec le cas des ONG.
L'humanitaire, je suis désolé, c'est du business. Une grande tour de Babel où l'argent seul a voix au chapitre. Je te jure que toute cette fourmilière d'humanitaire court seulement dans le sens de ses propres intérêts. Ce sont 2 mondes parallèles, Bernard. Le monde des ONG et le monde des assistés. De toute façon, depuis qu'on nous enfume avec le mot « résilience », ça y est, vous n'avez plus besoin de rien, plus besoin de vous nourrir. Vous êtes installé maintenant, installé dans la crasse, dans le chaos, dans la famine expérimentale. Ah, la résilience des nègres roseaux, des nègres increvables. Désormais, votre situation relève de la performance artistique, comme les murs du séisme, comme les murs du palais présidentiel effondré. Votre misère est tombée dans le domaine public de l'art contemporain.
James Noël, dans votre livre, vous dites aussi très provocateur, hein, d'ailleurs, que lors du séisme, les ONG ont atteint leur point G à Haïti.
Oui, au fait, là, on a écouté justement la parole de Déborah, un des personnages de Belle Merveille. Comme c'est un roman choral, il y a beaucoup de voix qui surgissent, tout ça. Au fait, je suis pas dans la provocation à proprement parler, justement. J'essaie de rendre compte, de donner à voir. Souvent, on parle de la crasse, de la misère haïtienne, des catastrophes, mais souvent, on oublie qu'il y a toute une mafia. Et c'est pas seulement dans le cas d'Haïti. Hein. Là, maintenant, il y a des grandes catastrophes et il y a des gens qui sont organisés bien avant, qui attendent.
Des prédateurs, avec les ONG.
Des prédateurs qui sont là Donc,
et qui profitent, qui c'est sont ça que vous voulez dire souffrance. Qui profitent de la souffrance.
Absolument. Ouais. Les populations sont en souffrance, mais il y a des gens qui sont là, justement, tout de suite pour monter des projets. Beaucoup de gens très bien intentionnés veulent aider, mais ils envoient aveuglement. Et il y a des gens, des prédateurs, qui sont là justement pour se servir de cet argent et pour piller, pour profiter.
Alors justement, Annick Dor est en Belgique, elle veut réagir avec son commentaire sur votre roman. Annick.
Mais oui, moi c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a un petit peu énervée dans votre livre, c'est justement votre sévérité à l'encontre des ONG et des médecins qui ont aidé après le tremblement. Et j'ai l'impression que c'est vrai que tout n'est peut-être pas parfait, mais que vous êtes quand même un peu injuste. Au-delà de ça, par rapport à plus la forme, maintenant, c'est vrai que ma première impression de lecture, ça n'a pas été très, très enthousiaste, parce que je trouvais que le travail par ellipse que vous faites dans votre livre, avec tous les jeux sur la langue, convienne peut-être mieux à un genre fragmentaire comme la poésie ou les chansons, et que ça convenait pas tellement au roman. Mais j'avoue qu'en fait, on se fait très vite quand même séduire par cette langue extrêmement imagée et quand même particulièrement savoureuse.
Très bien. Vous sentez injuste vis-à-vis des ONG ou pas ?
Non, déjà, je remercie madame. Non, au fait, quand même, c'est un roman sur 7 ans. Et puis, il ne faut pas se sentir directement touché quand on ne se sent pas concerné. C'est vraiment rendre compte justement de cette espèce de carreau, de ce grand carreau, où il y a eu beaucoup d'injustices, mais en même temps aussi, on voit bien les personnages comme Amore, on voit aussi Déborah. Et justement, qui travaillent dans des ONG qui ont des bonnes intentions et qui essaient de tout faire pour justement changer les choses.
Il est question aussi de la solidarité créole dans ce roman avec cet autre extrait que je vais vous lire. Les Martiniquais revendiquent haut et fort l'intégralité du drame, car ils parlent tous créole, comme les Haïtiens, comme d'ailleurs leurs cousins guadeloupéens, guyanais, réunionnais, mauriciens et tant d'autres. L'île est divisée entre la créolité du drame et la bouche qui profère des malheurs qui n'ont point de bouche. Cette solidarité créole, elle est toujours là quand il y a une catastrophe.
En fait, il y a une grande solidarité tout court. Hein. Ce grand élan, c'est vraiment cette ironie parce que tout le monde se revendiquait haïtien et c'était tout le monde qui venait au chevet du malade. Et donc, de ce chapitre-là, justement, on entend la voix des Russes qui disaient, voilà, les Haïtiens sont des Russes parce que jamais un peuple, justement, ne procède autant à la roulette russe. Les Portugais ont parlé parce que, quand même, il y avait le séisme de Lisbonne.
Et les Japonais aussi.
Les Dominicains. Et d'ailleurs, c'était les premiers, justement, comme on partage le même lit, donc la même terre, la même île, qui sont venus très vite à notre secours. Et voilà, c'est tout le monde qui parle comme ça, les Italiens. Donc justement donner, parce que ce qui m'intéressait justement dans Belle Merveille, c'est pas le sujet haïtien en soi. Moi par exemple, Haïti peut être pour moi comme une forme de thermomètre pour prendre la température de la vaste maladie du monde, du carreau monde, comme l'aurait dit Edouard Glissant. Mais en même temps, c'est vraiment c'est fabuleux pour un auteur justement de voir l'humanité justement regroupée là et donner rendre compte de tout ça. Pour moi, c'était vraiment une belle occasion.
On va poursuivre ces lectures avec Joy Sormand. Joy, vous avez accepté vous aussi de lire un extrait du roman haïtien de James Noël autour, je le rappelle, de ce séisme qui en 2010 avait fait 300 000 morts, 300 000 victimes. Voici un passage qui évoque la présence de l'ONU sur place après la catastrophe.
Les forces en présence admettent finalement que ces soldats ont débarqué au pays sans procéder à aucun test de dépistage. Ils ont débarqué, le torse bombé, avec leur passeport de casque bleu, leur valise de casque bleu et leur grosse tête, leur gros sabot de casque bleu. Une arrogance sans filtre. Une arrivée sans dépistage. Une attitude contraire au règlement de la grande organisation de paix et de sécurité dans le monde, contribuant avec les autorités locales en sous-main à faire de la perle des Antilles une île entourée de merde.
Les casques bleus responsables de l'épidémie de choléra qui a continué à décimer le peuple haïtien. Entre les ONG et l'ONU, on se dit que finalement on a pris Port-au-Prince pour un laboratoire, James Noël.
Oui, il y avait cette dimension de laboratoire. Donc du coup, tu dis, mais où allons-nous ? Donc du coup, regarder Pyongyang aujourd'hui, pour moi, c'est pas une surprise. Et voir par exemple Donald Trump, c'est pas une surprise. Parce que quand de ce laboratoire-là, tu vois vraiment comment ça se passe, comment on essaie justement de gérer avec une telle légèreté et quelque chose justement qui concerne nous, les terriens. C'est un constat dont je voulais vraiment rendre compte, c'est-à-dire le tableau. D'accord. Mais c'est pas un livre moral, je ne donne pas de leçons.
D'accord. On va laisser la place à deux autres libraires qui ont lu votre roman, James Noël, Jérémy Lagnel pour Le Canada. Qu'en pensez-vous?
Oui, belle merveille, hein, le titre qui coiffe le premier roman de James Noël. C'est aussi un qualificatif, à mon avis, qu'on pourrait donner à son auteur. On retrouve dans ce premier roman de Noël cet amour, mais surtout cette maîtrise de la langue. Hein, d'un coup, le langage devient paysage, éclatement, tremblement, éblouissement, et ainsi de suite sur la longueur du roman. Vraiment un très, très beau livre.
Très bien. Grégoire Courtois en France, emballé comme Jérémy ou pas?
Bah oui, oui. Figurez-vous. Bah, étrange, n'est-ce pas?
Oui, bah, les on deux plus les... méchants de l'émission.
Ouais, on est tous les deux d'accord. Non, mais c'est vrai.
Font une très bonne rentrée.
Mais pour la même raison, en fait, hein, c'est vraiment pour la langue, hein, parce que effectivement, c'est un thème qui est extrêmement violent, qui est terrible et qui est très dur, qui est souvent émouvant. Mais bon, la poésie s'infiltre à tous les étages du roman, hein, chez James Noël. Et c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est de voir comment, et nous, en tant que libraires qui lisons beaucoup de choses dans cette période de rentrée littéraire, comment, bah, à un moment donné, il y a une espèce de douche froide et on surgit, on dit, oh, bah, effectivement, on peut écrire différemment. Effectivement, il peut y avoir de la poésie qui s'infiltre partout. Mmh. C'est ça qui est vraiment très, très impressionnant.
Très bien. Vous faites l'unanimité. Vous vous rendez compte, James, c'est magnifique. Dans ce roman, il y a toujours une lueur d'espoir. En tout cas, et comme le peuple créole dans son ensemble, on finit par laisser la vie prendre le dessus. Grégoire Courtois, vous allez lire un autre extrait sur la musique d'un artiste que cite James Noël dans son livre. Il s'agit de Tabou Kombo.
Dès les premières années de l'histoire, on s'est surpassé au milieu d'une tempête et d'une vague de déboires. Maintenant, on se surprend à faire la fête tant on oublie. On se surprend à se prendre n'importe où, tant on oublie. On se surprend à danser tous les soirs, tant on oublie. Le compa mamba de préférence. On se surprend à danser et à rêver de la danse comme des villes parallèles sous la pluie.
On danse pour oublier, James?
Et oui,
sur
oui,
cette
oui,
musique compa oui, qu'on entend.
Oui, oui.
Ouais, vraiment.
En fait,
on oublie vraiment ou c'est une illusion?
En fait, moi, je danse déjà beaucoup et le compa, vraiment, c'est une musique, on dirait, taillée pour la danse.
Ouais, c'est ça.
Et il y a des espaces en Haïti, des chambres noires, et vraiment, tu rentres dans la salle et tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez. Et puis, vraiment, c'est
et
un espace
danse.
Où les corps se développent
ouais,
et on danse.
Et se côtoient et se frôlent. Ouais.
Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est comme c'est un roman très musical, justement.
C'est vrai,
et puis, la danse de la terre avec le séisme, justement, c'est aussi la dictée du mouvement du sol.
On va terminer sur cette musique compa. Merci beaucoup, James Noël. Belle Merveille est parue aux éditions Zulma. On dédie ces lectures, cet échange et au-delà toute cette émission aux victimes des Antilles, aux créoles des Caraïbes qui ont toutes nos pensées aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste Delamo. Merci Joyce Armand d'avoir joué le jeu. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes. À suivre un reportage dans les coulisses d'une séance de dédicace autour de Grégoire Delacour. C'était à Morges en Suisse la semaine dernière. Et il sera question de l'incroyable maltraitance animale dans les abattoirs avec l'enquête de Jean-Baptiste Delamo. L'amour. On écoute tout de suite le tout nouveau titre très engagé de Bernard Lavillier dans la librairie francophone.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent, et dans cette nuit noire, on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit, dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Bernard Lavillier avec Croisière méditerranéenne sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Et cette saison, nous donnerons plus de place aux reportages et aux livres de poche. Des reportages dans les coulisses du monde du livre en alternance avec un coup de projecteur sur un livre de poche. Cette semaine, c'est un reportage qui fait suite à notre émission de Rentrée à Morges que vous avez pu entendre le week-end dernier et qui est disponible bien sûr en écoute sur Internet. Nous avons suivi l'écrivain Grégoire Delacour, célèbre pour sa liste de mes envies adaptée au cinéma, un auteur qui a un échange très privilégié avec ses lecteurs. En fait, Grégoire Delacour fait le show et il a un humour plutôt décapant, écoutez.
Tu t'ennuies pas, toi, ça va. Ça fait quand même
que
une heure.
Je peux avoir un verre d'eau.
Mais voilà, je vais te proposer un verre d'eau. Est-ce que tu veux pétillant ou plat?
Pétillant.
Il faut que je te serve aussi, non? Ça va. Et tu m'achètes pas de livre? T'as pas 12 euros, 12 francs suisses 40?
Ah non, moi j'économise pour mon permis de conduire.
Oui, mais ton permis de conduire, ton permis de conduire, vous le passez à quel âge en Suisse? À 5 ans?
Non,
quel âge?
18 ans.
À 18 ans, et t'as quel âge?
10 ans.
Donc t'as 8 ans d'économie devant toi.
Ça va Grégoire?
Ça va bien.
Vous êtes un grand spécialiste des salons. On vous voit partout. On vous a vu au Salon du Livre de Montréal déjà, à Paris, ici à Morges, à Genève, à Bruxelles, à hier, un peu partout.
Les salons, oui, j'adore ça. J'adore les gens. Parce que quand on écrit, encore une fois, on est tout seul. Et là, on voit les gens qui vous lisent, qui sont heureux apparemment. Madame ne me quitte plus, là, ça fait quand même 4 heures qu'elle me regarde. Et en riant. Et c'est un moment formidable d'énergie, de épuisement aussi le soir. Mais quel bonheur ces salons, et en plus c'est beau ici.
Il y a le lac Léman juste en face.
Alors là, ils m'ont puni cette année, ils mettent d'eau au lac Léman parce que les femmes se plaignaient que je ne les voyais pas assez, elles étaient à contre-jour. Donc maintenant c'est moi qui suis à contre-jour parce que je vieillis un petit peu. Voilà.
Moi je vous ai vu à Nice et vous faites le show à chaque fois. Ouais. J'ai assisté à une heure de dédicace avec vous et vous êtes tout le temps en train de faire le show avec vos lecteurs. Ouais. Ça c'est incroyable, un peu comme un vendeur, et vous venez de la publicité, donc peut-être qu'il y a des petits relents.
Non, mais je trouve que c'est normal que la passion qu'on a à écrire, on la partage quand les gens viennent. Je pense que c'est important que les gens partent avec un souvenir humain.
Très bien. Madame n'a pas fait signer son livre.
J'ai le temps.
Allez-y, je vous en prie, je croyais que c'était déjà fait, moi.
Non, je ne l'ai pas lâché. Hein.
C'est lequel, celui-là?
Danser au bord de l'abîme.
J'ai pleuré un petit peu.
J'ai pleuré, puis j'y passais la nuit.
Ah, je suis empêchée de dormir?
Oui, oui.
Non, mais votre mari n'a pas gueulé, ça va?
J'en ai plus. Je pensais qu'il y aurait peut-être un nouveau, là, cette année.
Moi,
mais
je vais vous faire une confidence, oui. L'année prochaine.
Mars 2018, c'est ça?
Par exemple.
C'est quoi le sujet, Grégoire Delacour?
Je dis jamais rien, je suis super superstitieux.
Pour la librairie francophone, un thème, en exclusivité.
C'est une histoire de femme. C'est une femme qui écrit. Une des dernières prisons de femmes que j'essaie d'ouvrir, mais une prison de culture, de sentiment, pas une prison avec des barreaux, que je voudrais faire un petit peu péter. Alors, Rosine, je vous offre mon marque-page gratuit, avec mes lunettes.
Parfait.
Comme ça, vous verrez le monde avec mes yeux. Il y a mon adresse, vous pouvez m'écrire, je réponds.
Non, mais c'est vrai en plus.
Et ça, c'est totalement gratuit. Donc, si à la caisse, ils vous font payer, vous dites c'est gratuit.
D'accord.
Rosine, je vous remercie.
Alors, et à tout à l'heure,
sur le bateau.
Oui.
Mangez léger quand même avant, parce qu'on annonce quand même du tangage et je ne voudrais pas que...
Merci mille fois. Et puis alors, j'attends l'année prochaine aussi.
Mais,
j'attends
avec vous. Je vais attendre avec vous. Ah, vous en prenez deux, vous, madame? Ah oui, alors trois, alors là je vais vous gâter là. Merci mes filles.
Toi aussi.
Sur le bateau. A tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer sur ce bateau? Ça va être la croisière s'amuse. Alors là, quel est votre prénom?
Françoise.
Ça j'aime bien Françoise. Ma mère s'appelait Françoise. Non mais sans déconner, regardez, c'est marqué là. C'est un prénom qui marque une époque. Quoi. Je sais en quelle année vous êtes né, voilà, c'est marqué dans le prénom. Il est cash. Parce que je pense que je l'ai calmé là. Il te rend compte, ce salaud d'auteur, il me dit que j'ai mon âge. Enfin, c'est...
Oh, merci beaucoup, Grégoire.
Emmanuel, merci. Vous êtes toujours aussi charmant et amoureux des livres et ça fait du bien.
Ouais. Vous êtes magnifique, fidèle. En plus, on est arrivé comme ça de façon impromptue. Hein.
Je vois, il n'a pas de pile dans son truc.
Rien n'a été enregistré, bon rassuré.
Salon, voilà. Bon salon à vous et puis bonne découverte parce qu'il y a une belle rentrée littéraire, je crois.
Merci Grégoire, à bientôt.
Merci Emmanuel, ouais, à bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Changement d'ambiance avec Jean-Baptiste Delameau, auteur du roman Règne animal, qui revient sur ce sujet avec un essai sur les actions de l'association L214. Vous êtes devenu végétarien en vous intéressant à ce sujet, Jean-Baptiste ?
Oui, j'ai cessé de consommer de la viande puis des produits d'origine animale il y a quelques années. Tout d'abord en me questionnant sur l'impact de l'élevage sur notre environnement. Et puis peu à peu en découvrant les enquêtes justement menées par l'association, en apprenant plus de choses sur les techniques d'élevage et d'abattage. Et là, j'ai vraiment compris que le cœur du problème, c'était la question de la souffrance des animaux.
L214 est une association qui, au-delà de défendre la cause animale, montre factuellement, avec des vidéos, avec des enquêtes, les dérives de l'élevage intensif.
Oui, enfin de l'élevage de manière générale, puisque de nombreuses enquêtes ont aussi révélé que, par exemple, dans des élevages et des abattoirs labellisés bio ou label rouge, on trouvait aussi une violence inhérente au système même de l'élevage.
Alors voilà ce que ça donne avec un extrait d'un reportage diffusé à la télévision française il y a quelques mois sur France 2.
À l'Est, dans le Gard. C'est ici qu'a eu lieu le plus grand scandale déclenché par les militants anti-viande. Au printemps dernier, ils réussissent à infiltrer l'abattoir municipal et à en extraire des images inédites. 50 heures de vidéos clandestines, insoutenables. On y voit des vaches encore conscientes au moment où elles sont égorgées. On y voit des cochons descendre dans une fosse, gazés au dioxyde de carbone pendant de longues minutes pour les endormir. Puis saigner alors même qu'ils reviennent à eux. Des mises à mort et des conditions d'hygiène à la limite de la légalité. Un choc. Le maire ferme l'abattoir pendant un mois et une enquête judiciaire est ouverte pour acte de cruauté.
Vous expliquez très bien, Jean-Baptiste Delameau, dans votre livre, comment l'abattage de masse, à tel point, il est monstrueux, en fait. L'animal n'est pas considéré comme un être vivant.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas de technique de mise à mort des animaux qui pourrait nous garantir qu'ils n'éprouvent aucune souffrance. Alors, quand bien même ça existerait, ça poserait la question de savoir si on a le droit de mettre à mort des êtres qu'on sait aujourd'hui dotés de sensibilité, d'émotion.
Ça, c'est depuis toujours, oui.
Mais en tout cas, les techniques d'abattage et d'élevage restent bien sûr particulièrement violentes.
Depuis toujours, Jean-Baptiste.
Depuis toujours, mais c'est vrai que l'industrialisation et l'abattage de masse a décuplé cette violence-là et qu'aujourd'hui, on doit véritablement l'interroger, puisqu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, il n'est plus nécessaire de consommer de la viande ou des produits d'origine animale.
On va revenir sur ce sujet. Quand vous définissez deux catégories animales, les animaux humains et les animaux non humains, c'est une forme de provocation ?
Pas du tout, c'est pour essayer de faire entendre ce que peut être l'antispécisme et de faire comprendre que les hommes appartiennent au règne animal et que finalement nous composons tous une communauté du vivant et du sensible et qu'à partir de là il n'y a pas de raison qu'il existe une discrimination basée sur l'appartenance à une espèce.
Pas de différence entre l'homme et l'animal.
Il existe des différences, bien entendu, comme il existe des différences parmi les espèces et parmi les animaux. En revanche, là où il ne doit pas exister de différence, c'est dans la considération des intérêts des individus. Et par exemple, ça sous-entend que les animaux sentients, dotés de sensibilité, d'une conscience d'eux-mêmes, doivent avoir des droits fondamentaux. Par exemple, le droit de ne pas être exploité, le droit de ne pas être tué, le droit d'être libre.
Ce livre n'est pas une enquête journalistique. Hein. Vous l'expliquez très honnêtement, Jean-Baptiste Delameau. Du coup, vous autorisez des démonstrations plutôt contestables, voire assez légère. Par exemple, les poissons, vous dites, sont victimes d'une conception périmée de l'échelle de l'évolution selon laquelle ils seraient les plus primitifs. L'habileté des cochons aussi que vous soulignez, habileté des cochons à utiliser les rudiments d'un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est censé prouver, ça ?
Je vois pas en quoi ces démonstrations vous semblent contestables, puisque ce sont des preuves qui ont été apportées par des éthologues de l'intelligence, de la capacité des animaux à la fois à éprouver de la douleur dans le cas des poissons, et à la fois à faire preuve d'une forme d'intelligence et de conscience de soi dans l'exemple que vous citez des cochons. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté les découvertes qui ont été apportées par l'éthologie depuis une trentaine d'années sur ces éléments-là de la conscience et de l'intelligence des animaux. Elles doivent nous amener à reconsidérer un système morale dans laquelle nous avons exclu les animaux.
Mais vous enfoncez des portes ouvertes, Jean-Baptiste, parce qu'il y a un passage sur les poussins qui apprennent beaucoup de leur mère, vous dites. Vous démontrez ça sur 3 pages. Ce qui est censé nous faire comprendre que les poules ne sont pas si idiotes que l'on croit. En fait, tous les animaux calquent leur comportement sur leur mère, même les insectes probablement. Tout le monde fait ça.
Alors, si c'était enfoncer des portes ouvertes, je crois que depuis longtemps, nous aurions cessé de consommer des poulets et des vaches.
Ça n'a rien à voir.
Comme nous avons cessé de consommer des chats ou des chiens.
Ça n'a rien à voir.
Si, tout à fait. Ça veut dire que ces preuves-là, ces études-là, elles nous engagent à reconsidérer notre lien avec ces animaux et à comprendre que nous n'avons pas de légitimité à les consommer et à les exploiter.
Alors, c'est un peu écrit pour nous dégoûter de manger de la viande, y compris du poisson. Vous expliquez que la truite, vous prenez l'exemple de la truite, vous prenez à chaque fois des exemples, voilà, la truite. C'est vrai, on a l'impression que tout le monde s'en fout de la truite parce qu'elle est dans la rivière. La truite souffre, donc vous l'expliquez, vous le démontrez scientifiquement, de façon très intéressante d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent, je dirais même plus malin, de faire des livres et des rapports sur la surconsommation de viande? Parce que c'est ça le problème, et vous en parlez très bien, ce sont les passages les plus intéressants de votre livre. Les abattoirs sont de véritables boucheries, inacceptables. Ce qui est inacceptable aussi, c'est que la santé humaine, elle est mise en péril avec ces failles sanitaires. Donc le problème finalement, c'est pas vraiment de manger de la viande, c'est de la surconsommation de viande, non ?
Alors, il y a différentes entrées. Il y a à la fois la question de la surconsommation de viande, de son impact sur l'environnement, sur la santé publique, mais il y a aussi bien évidemment la question qui peut-être à laquelle vous êtes visiblement moins sensible, mais qui est celle de la souffrance animale.
Non, pas du tout.
Et effectivement, pendant longtemps, on a considéré que les poissons n'éprouvaient pas de douleur, et même souvent que ça n'était pas de la viande. Bien souvent, on dit aux végétariens, mais alors tu manges quand même du poisson.
Oui, c'est de la chair.
Bien, justement, les scientifiques, les biologistes, les éthologues ont montré que les poissons ressentaient la douleur. Et qu'ils étaient aussi dotés d'émotions et qu'ils établissaient des liens sociaux, etc. Ça doit nous engager et nous encourager à les considérer différemment. Et peu importe quelle que soit la porte d'entrée dans cette réflexion-là sur la condition animale, que ce soit les questions de santé publique, d'environnement, de souffrance animale, ça doit en tout cas nous conduire à questionner notre industrie et notre rapport à la consommation de la viande.
Sauf que c'est un peu perdu d'avance ce combat. Parce que, si je peux me permettre, l'homme est physiologiquement omnivore. L'homme est omnivore depuis le paléolithique supérieur. Donc ça, voilà, c'est depuis toujours comme ça. Ce qu'il faudrait peut-être, avant de devenir végane, c'est manger avec parcimonie de la viande.
Alors heureusement, depuis le paléolithique supérieur, il ne vous aura pas échappé que nous avons évolué, qu'il y a eu la culture, une civilisation, des civilisations, que vous ne vous habilliez plus en peau de bête et que vous n'allumez plus
votre
cigarette avec un silex. Toujours est-il que...
Oui, mais on mange de la viande depuis toujours, c'est ça que je veux
dire.
Sauf
qu'on a développé suffisamment d'alternatives végétales pour répondre à nos besoins nutritionnels et que donc aujourd'hui, on peut...
C'est contesté, vous le savez, hein, par des chercheurs, par des scientifiques, par des médecins, c'est
contesté. Alors effectivement, souvent par des chercheurs qui ont des billes dans les lobbies de la viande, puisque de grandes institutions, je les cite d'ailleurs dans le livre, de grandes sociétés de diététiciens, notamment canadiens, américains, sud-américains, ont tout à fait validé les régimes végétariens et végétaliens comme adaptés à l'homme et tout à fait sains pour la santé.
Ce que je veux dire par là, Jean-Baptiste, c'est pas pour vous attaquer ou pour dire il faut manger de la viande. Moi, j'en mange pas, j'aime pas ça, la viande, quasiment pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous très conscients finalement de ce scandale de l'élevage, de l'abattage. Voilà, ça c'est sûr. Mais ce qui va sensibiliser tout le monde au final, c'est de jouer sur les dangers pour notre santé. Parce que notre santé est en jeu avec ces élevages, avec ces conditions sanitaires qui sont déplorables. On le voit avec les films de L214 qui sont très bien faits, où on voit des poulets écrabouillés, des poussins malades. C'est affreux et ça on le mange. Donc ça sensibilise, je pense, y compris les carnivores ou les amateurs de viande.
Tout à fait, mais comme je vous le disais, je pense que tous ces discours se complètent et contribuent à sensibiliser le grand public. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un changement profond de notre société et que c'est devenu un débat légitime aujourd'hui, que les gens se questionnent, que les alternatives végétales apparaissent aussi sur le marché et que les gens sont très sensibles justement à ce discours, certes sur la question de la santé, mais aussi de l'éthique.
Très bien, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre. La Suisse ou le Canada, on commence par qui ?
Oh ben, le Canada.
Le Canada. Jérémy Laniel, vous choisissez pas le plus facile. Allons-y, Jérémy Laniel.
Oui, bon, je dois avouer que je me suis un peu perdu, voire ennuyé dans ce portrait d'association que brosse de l'amour, bien que les enjeux sont les mêmes d'un côté comme de l'autre de l'océan, les acteurs et les motifs diffèrent et j'ai un peu de difficulté à y trouver mon compte. Par contre, j'insiste, le génie de votre dernier roman, Règne animal, porte ses inquiétudes et ses batailles de façon beaucoup plus universelle. Et j'insiste vraiment, j'invite tout le monde, tout lecteur à s'y plonger.
C'est vrai. Très bon roman, Jean-Baptiste, Règne animal. On va aller en Suisse, donc, du coup. Dominique Bressoux.
Alors moi, au risque de passer pour une vieille réac, j'avoue avoir été prodigieusement agacée par ces quelques 390 pages, dont une centaine étaient particulièrement éprouvantes. Ah bon ? Le parcours de vie des militants, le côté révélation pour les héros de la cause. Alors même si, objectivement, on doit cesser de faire souffrir inutilement hommes et animaux, la subjectivité dont vous faites preuve tout au long de ce livre, ça m'a paru complètement contre-productif. Ça plaira à ceux qui sont déjà vos adeptes, mais ça risque vraiment de rebuter les autres. Mmh. À mon avis.
Voyez. Voilà. Oui, ça peut rebuter.
Oui, ça peut rebuter.
Ça illustre un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Je pense que ça peut aussi toucher. Moi, ces portraits de militants, ils m'ont surtout appris qu'on était bien loin du cliché du militant animaliste misanthrope et qu'au contraire, on était face à des militants qui avaient souvent porté des combats aussi pour les êtres humains, qui étaient très engagés d'un point de vue associatif et qui, avant tout, travaillent pour un monde plus juste.
Vous êtes militant à leur côté aujourd'hui.
Oui, je suis vraiment engagé.
À leur côté.
Oui, bien sûr, je suis engagé.
C'est courageux d'ailleurs.
Je ne m'en suis jamais caché. Non, je l'annonce dès. L'introduction du livre.
Je vais me permettre une comparaison, car vous en faites beaucoup de comparaisons. Hein. Dans votre essai, Jean-Baptiste Delamo, vous semblez adhérer à cette idée donc que l'homme n'est pas fait pour manger les animaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, que les animaux ont droit au respect et à la liberté. Donc tuer un animal pour le manger, c'est inhumain quelque part. C'est ça ? Vous êtes d'accord ?
Je ne sais pas si j'utiliserai le terme inhumain, mais oui.
Très bien. Continue. Qu'en est-il des lions ? Des tigres, des crocodiles et autres félins qui déchiquettent vivants de pauvres biches, de pauvres antilopes ou de pauvres souris pour se nourrir.
Mais je pense que ce sont des animaux qui n'ont absolument pas les mêmes besoins nutritionnels que nous. Le lion est strictement carnivore et il a...
Ils font mal, hein.
Il n'a pas d'autre choix que de tuer la biche ou la proie pour se nourrir, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc la comparaison n'a même pas lieu d'être, je pense.
Les animaux ont le droit de se manger entre eux, mais l'homme n'a pas le droit de manger des animaux.
C'est ça qui est troublant. Comme je vous l'expliquais, je pense que déjà l'homme est un omnivore, n'est pas un carnivore, n'est pas un prédateur exact. Né. Il faut rappeler qu'à l'origine, l'homme était avant tout un chasseur cueilleur, donc la chasse était occasionnelle, et puis que nous avons aussi aujourd'hui suffisamment diversifié notre alimentation pour pouvoir nous passer de consommer des produits d'origine animale et donc de générer cette souffrance.
Très bien. Vous avez été entendu, je suppose. Il y a une dernière chose dans votre conclusion qui m'a un peu perturbé. Alors je suis obligé de vous poser la question, parce que vous savez, ici on est honnête. Vous comparez le discours de Martin Luther King sur la cause noire avec la condition animale. Vous écrivez, page 387, « Contrairement à la communauté noire et à toutes les populations dominées qui ont mené le combat de leur émancipation au cours de l'histoire, les animaux ne peuvent porter eux-mêmes le discours de leur libération.
Mmh. » Oui, c'est un fait.
Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez ?
Je m'en rends tout à fait compte, c'est un fait. C'est pour ça justement que si nous voulons réussir à porter ce discours de l'antispécisme, eh bien c'est aux hommes de le porter, c'est à ces militants de porter cette voix-là.
Mais de comparer les hommes avec les animaux, la liberté des hommes, avec la cause noire, enfin on sait tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est horrible.
Alors,
avec la cause animale qui effectivement est terrible, mais qui n'est sans doute pas comparable quand même, non ?
Je pense qu'effectivement, là où c'est comparable, c'est que ce sont deux mouvements d'émancipation de population et d'individus asservis. En revanche, je ne compare pas ces douleurs-là. Ce que j'explique aussi, c'est que, et ce qu'explique très bien Martin Luther King dans cette citation, c'est que finalement, il fallait amener la société à un état de crise pour imposer le débat. Et je crois que c'est ce que font aussi ces militants qui, en dévoilant ces images, en portant ce discours-là, en montrant cette réalité, ont réussi à créer cette situation de crise en France qui fait que le débat est devenu légitime, que la question est posée et que maintenant nous devons la regarder en face, regarder nos pratiques de consommation.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamo. L214, une voix pour les animaux, est paru aux éditions Artaud, un livre qui fait débat dans notre équipe, vous l'aurez compris, mais qui a le mérite de dénoncer l'inacceptable sur la façon dont sont traités ces animaux dans les abattoirs. C'est intolérable, à notre époque il y a tant d'alternatives. Merci Jean-Baptiste.
Merci
beaucoup. À suivre la chronique des libraires, leur coup de gueule et leur coup de cœur tous ensemble, et un focus sur le nouveau roman de Joy Sorman qui est en plateau avec nous. Avant cela, on écoute la chanteuse Férouz qui sort un nouvel album de reprise à 82 ans. Voici un titre que vous allez tous reconnaître. Écoutez attentivement, Férouz.
No way, but none feel Min kill il ambisir Ma fin an kaffi zil Atlu khawfu tihjir إيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه حكم ولا كراسي، لا حقد ولا بغض، لا دين ولا مصاري، ولا حروب تل الأرض. شو اللي منعنا نوحد؟ ليه نحنا قصمنا؟ يمكن أنا عم أحلم حلم كل واحد منا، الحلم وحده بيجمعنا لنعيش بسلام. ما عاد بدنا حروب بلا سبب نموت، بكرة يضل مخوفنا ليش وعشو قتلنا. ما دام السماء وحدي لا كل الناس، يمكن أنا عم أحلم حلم كل واحد منا، الحلم وحده بيجمعنا تنعيش بسلام، تنعيش بسلام، تنعيش بسلام.
La grande chanteuse libanaise Féroz avec Yemken, une reprise de Jean-Baptiste Delhamo, Joyce Armand, James Noël, vous avez trouvé ?
Imagine.
Ah, oui, bah oui.
Oui, oui, pardon.
Réveillez-vous.
John Lennon.
On est là. John Lennon, la reprise d'Imagine par Féroz, c'est un événement sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Jérémy Lagniel, vous êtes énervé pour cette première participation de la saison, en même temps vous connaissant, ce n'est pas vraiment étonnant.
Est-ce que ça vous étonne? Voilà la question. Oui, mais je ne suis absolument plus capable des grands articles sur la rentrée littéraire dans les médias tant québécois que français. Vous savez, ces statistiques un peu folles, 674 livres seront publiés, 351 premiers romans, on a utilisé les tirets quadratins 34 624 fois, on retrouve 346 000 fois le mot soupe. C'est complètement ridicule. Des listes interminables d'auteurs connus et inconnus avec à peine une ligne pour décrire le livre. Est-ce qu'on peut prendre le temps de lire les livres et d'en parler plutôt que faire ces fouillis de textes à toutes les rentrées qui sont complètement inutiles?
Ce sont des statistiques. Oh, Grégoire, bah, pour la France, vous êtes d'accord?
Les évidemment, statistiques, ça vous énerve? Non, mais surtout les articles qui sont des marronniers, en fait.
Voilà. Très bien. Vous avez une dent contre les profs?
Bah absolument.
Avec un coup de gueule contre les profs?
Oui, mais pas tous.
Vous êtes fou, on va perdre tous les auditeurs.
absolument tous les gens qui écoutent les émissions culturelles. C'est terminé. Non, mais pas tous les profs, bien entendu. Mais là, c'est la rentrée des classes, on est d'accord. Ouais. Les valeureux parents qui viennent en librairie pour acheter le livre que le prof a demandé, nous le commandent, bien entendu. Et là, à côté, on a le petit qui nous dit « Mais non, la prof, elle nous a dit qu'il fallait aller sur Internet pour acheter le livre, etc. » Et ça, moi, ça me fout hors de moi, je suis désolé. Mais là, c'est un vrai coup de gueule parce qu'effectivement, il y a énormément de professeurs qui encouragent les enfants à aller sur Internet ou dans les grandes surfaces, qui ne pensent même pas une seule seconde à leur dire « Au fait, il y a une librairie dans
votre
ville. »
Bien sûr, indépendante. Mais oui, adressez-vous aux professeurs, mais voilà. Aux enseignants, chers enseignants. Ce n'est pas possible, il faut faire vivre les librairies indépendantes. Dites à vos élèves d'aller acheter leurs livres dans les librairies indépendantes. On a besoin de ça, on a besoin de vous.
Et on ne leur demande même pas la charité, hein. C'est juste la libre concurrence.
Pas trop.
Dire qu'on existe.
Vous allez les braquer, vous allez les braquer.
Qu'on existe,
arrêtons là. Dominique Bressot, en Suisse, est-ce que les professeurs vous envoient des élèves dans votre librairie?
Oui, ils viennent chercher les livres eux-mêmes, c'est pas mal.
Ils sont disciplinés, oui.
Là, je voulais plutôt vous parler de livres pour beaucoup plus petits-enfants,
oui,
en fait.
Allez-y.
C'est un vrai coup de cœur pour une réédition de La poule et le canard de Léopold Chauveau aux éditions La Joie de lire. Si vous cherchez une vraie histoire à raconter à des enfants et pas seulement des belles illustrations au texte très court, voire inexistant, c'est un vrai bonheur. C'est bourré d'imagination, c'est humoristique, un tantinet cruel, même très cruel. Donc bref, tout ce qu'il faut pour endormir les enfants le soir.
La poule et le canard aux éditions La Joie de lire. Merci beaucoup Dominique. Annick Dor en Belgique, un coup de cœur aussi.
Oui, un coup de cœur pour le roman du Belge Thomas Gunzik, hein, La vie sauvage. Alors on connaît l'auteur pour sa plume plutôt piquante. Hein. Et ici, il nous offre une vision décapante de notre société par le biais d'un jeune homme qui vient d'Afrique et qui découvre horrifié la pauvreté affective et humaine des Européens. Alors c'est un regard lucide et assez glaçant sur la façon dont on mène nos existences. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sujet est traité de manière plutôt originale. Et ça fait réfléchir.
Eh bien, nous verrons cela, puisqu'il sera l'invité de la librairie francophone la semaine prochaine. Ça tombe bien, on verra si tout le monde est d'accord avec vous. La vie sauvage de Thomas Gunzig au Diable Vauvert.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Joyce Ormand est dans la librairie cette semaine pour son nouveau roman « Science de la vie » paru aux éditions du Seuil. Alors Joy, depuis 1518, une famille est touchée par une malédiction. De génération en génération, une maladie se déclare chez les filles aînées, des maladies rares, étranges, voire inconnues, comme celle qui est prise de crise de rire ou Marie qui est prise de sautillement et qui se met à danser comme ça dans la rue jusqu'à l'épuisement. Ce sont des formes d'hystérie qui finissent par disparaître, mais qui arrivent comme ça soudainement. Ça existe ça ou...
Tous les cas étranges que je documente dans le livre ont vraiment existé, été répertoriés dans la littérature médicale. Je n'ai absolument rien inventé.
Ah d'accord.
Et en particulier la pathologie qui ouvre le livre, la folie dansante qui s'est emparée de Strasbourg en 1518 est un cas très célèbre.
C'est vrai, c'est incroyable. Tous les gens dansaient dans la rue, 450 personnes dans la rue à danser.
Oui,
il y en a qui en sont morts.
Oui, les gens mouraient d'épuisement, de rupture d'anévrisme, de crise cardiaque.
Alors dans les années 90, Ninon est bercée toute son enfance par ses histoires familiales racontées par sa mère avant de dormir. C'est une hérédité entretenue, je dirais. La malédiction se reproduit aussi par la mémoire, par le souvenir.
Oui, la malédiction se reproduit justement par la fiction, par le récit, par le roman familial. Non pas le roman national, mais le roman familial. Et effectivement, Esther, la mère de l'héroïne Ninon, a consigné tous ces cas merveilleux et les distille comme un poison en les racontant, les injectant à sa fille pendant toute son enfance.
Et elle va du coup déclencher une maladie. Un matin, alors qu'elle a 17 ans, elle se réveille avec les bras qui brûlent.
Oui, donc ça c'est un symptôme qui existe aussi, qui s'appelle l'allodynie tactile dynamique et qui est en fait un dérèglement du sens du toucher qui fait que les informations envoyées au cerveau sont déréglées précisément et que la moindre caresse apparaît comme une brûlure, une scarification, comme si on versait de l'acide sur la peau. Donc c'est un symptôme qui fait qu'on ne peut plus rentrer en contact avec le monde extérieur.
Et on ne comprend pas, les médecins ne comprennent pas. Elle va partir à la recherche justement de ce mal. Personne ne comprend. Finalement, on est d'une certaine façon pointé du doigt, docteur Sormand, quand on a une maladie que personne ne comprend.
Oui, c'est le grand drame de Ninon. C'est-à-dire qu'effectivement, je raconte l'épopée médicale de cette héroïne pour guérir et surtout l'impossibilité pour elle de prouver sa maladie. Oui, J'avais envie aussi d'étudier ça. C'est dans le rapport médecin-malade, quand une maladie ne se voit pas d'une certaine façon, le médecin doit faire confiance à la parole du patient. Et il faut qu'il y ait un pacte de confiance qui ne fonctionne pas toujours. Et donc Ninon, elle a le sentiment d'être une suspecte.
Ninon va faire des recherches sur Internet, du coup. On le fait tous, quand on a un petit truc qui ne va pas. Il ne faut surtout pas faire ça, d'ailleurs. Mais elle découvre que la peau est l'organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain. On apprend beaucoup de choses sur la peau avec votre livre, Joyce Ormand. C'est un organe qui vous interpelle, qui vous préoccupe.
Oui, alors il se trouve que mon précédent roman s'appelle La peau de l'ours. Oui. Et je m'étais déjà intéressée à ce motif. Et effectivement, j'ai lu quelques ouvrages de dermatologie en préparant le livre. Et je me suis rendu compte que cet organe était passionnant à plusieurs titres. D'abord parce que toutes les autres pathologies du corps ont une projection cutanée. C'est que toutes les maladies du corps, tous les organes affectés s'expriment sur la peau, que tout peut se lire sur la peau et que c'est le premier organe qui dit le mal. C'est cette enveloppe qui nous
tient. C'est le récepteur de nos sensations.
Oui, c'est l'identité d'un individu commence par la peau. Mmh. Et d'ailleurs, le nouveau-né apprend le monde et apprend les relations avec les autres à partir du sens du toucher. Tout part de là.
Tout part de là. Et la communication entre les êtres aussi. On dit que ça part de l'esprit, de l'âme, mais ça part aussi par le corps d'abord et par la peau avec le toucher notamment. Il y a 3 libraires qui ont lu votre roman Joyce Sorman. Ne faites pas cette tête. Ça va bien se passer. Vous allez voir. On commence par qui ? La Suisse, la Belgique ou la France ?
La Suisse.
Ouais, ça ne me prenait pas de risque. Dominique Bressou. Bah, elle est sympa, Dominique.
Mais il passe jamais, hein.
Mais non, c'est vous, ça va, vous avez déjà taillé des auteurs. Allez-y, Dominique.
En fait, ce livre, moi, je l'ai trouvé tout simplement incroyable. Parce qu'on vit sa maladie avec l'héroïne, on reste prisonnier de son histoire. Et la précision de scalpel de l'écriture, ça permet des descriptions qui sonnent très très justes de l'état mental et physique de Ninon. C'est même au point qu'à la sortie du tunnel, à la fin du livre, on en reste comme elle étourdie et comme éblouie de cette liberté retrouvée.
Bien, Annick Dor pour la Belgique, êtes-vous d'accord ?
Ah, complètement. Pour celui qui connaît la douleur chronique, c'est absolument magistral. Je trouve que vous avez réussi à sonder tous les mécanismes psychiques qui se mettent en place quand une douleur aiguë devient chronique. Hein, vous mettez le doigt sur la peur que la douleur soit irrémédiable, le côté aussi anxiogène, hein, quand on n'objective pas la pathologie, mais aussi le repli sur soi. Et j'ai trouvé tout ça extrêmement bien décrit, extrêmement juste. Alors c'est vrai qu'après, on peut trouver ça peut-être un peu longuet parce que le roman tourne exclusivement autour de cette thématique ou pratiquement, mais ça n'empêche que ça sonne toujours juste et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous lire.
Allez, on va casser tout ça avec Grégoire Courtois, le plus méchant des libraires.
Je ne vais rien casser du tout. Parce que... Non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec mes deux consoeurs.
Incroyable.
Non, non, il n'y a pas de problème, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui a été dit là, que c'est l'empathie que le lecteur éprouve vraiment pour ce personnage. Et c'est vraiment le tour de force du livre, c'est de nous faire vraiment se ressentir cette douleur. Alors, il ne faut pas le cacher, c'est une lecture qui est éprouvante. Ouais, hein, c'est une expérience physique de lire ce livre. Mais voilà, c'est somptueusement écrit. Et ça, c'est important, cette force qui est aussi le sujet du livre, comment on arrête les traditions.
Somptueusement écrit. Joyce Sorman, ça va
hein ? Je reste sans voix, oui.
C'est plutôt
là,
pas
ça
mal.
Va, je me sens plutôt bien. Là, ouais.
On va terminer avec une comparaison très intéressante dans ce roman avec la métamorphose de Kafka. Et ce personnage qui se transforme en terrible bestiole, mais lui, il capitule en se laissant mourir. Ce n'est pas le cas de Ninon, elle va se battre jusqu'au bout.
Oui, Ninon, effectivement, elle veut échapper au déterminisme familial, au déterminisme génétique, et elle veut s'inventer une identité. Et c'est d'abord pour ça qu'elle se bat. Elle se bat contre la douleur, mais elle se bat aussi pour exister hors de la généalogie, hors de la fatalité généalogique. C'est un thème d'ailleurs qui m'a aussi passionné dans Règne animal, le roman de Jean-Baptiste Delamo, la transmission et la fatalité génétique. Ouais, ouais. C'est aussi l'histoire de ce livre.
Ouais. Elle va se construire une carapace, on ne va pas en dire plus, parce que sinon on dévoile tout, mais ça risque de plaire à ceux qui sont amateurs de tatouages.
Entre autres. Fait comme ça un public très ciblé.
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Joyce Sorman. Merci d'être venu dans la librairie francophone. Désolé d'avoir un peu écourté votre séquence en raison de l'actualité, vous l'aurez compris. Science de la vie est paru aux éditions du Seuil et vous faites l'unanimité auprès de nos libraires. Merci, Joy.
Merci.
À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le Québécois Louis-Jean Cormier, très très connu au Québec, que vous allez peut-être découvrir si vous nous écoutez ailleurs. Voici un extrait de Tout le monde en même temps.
marche arrière pour reprendre notre élan. Est-ce que l'on éviterait le cratère? Mais où sont les règles du jeu qu'on y mette le feu? Bonjour solitaire, tout le monde en même temps.
Louis-Jean Cormier, tout le monde en même temps, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Grégory Wallon, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Chris Mage en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Fut en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Jean-Louis Fournier et Thomas Gonzig, entre autres, et des surprises, comme toujours. Passez une très bonne semaine, un bon week-end. À bientôt, salut.